Retour à question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Le milieu de la santé québécois la digère un petit peu mal. Le projet de loi 10 sur la réorganisation du réseau de la santé a été adopté au bâillon et le ministre de la Santé n'exclut pas le même scénario en cas de blocage pour le projet de loi 20 qui concerne entre autres l'imposition de quotas de patients aux omnipraticiens. Mais, quittons un peu ce tumulte pour parler d'un blog. On est encore dans le domaine de la santé, mais je voulais qu'on se mette à réfléchir un peu plus avec plus de hauteur. On va donc quitter ce brouhaha pour parler d'un blog tout à fait fascinant où l'on réfléchit de façon intelligente sur la santé des populations, la gestion responsable des systèmes de soins et le rapport entre technologie et société. Luc Dupont, journaliste scientifique et chroniqueur, nous propose ainsi sa chronique intitulée « Technologie médicale et transformation sociale ». Bonjour Luc.
Hey, bonjour Jean-Philippe.
Alors, encore une fois, un gros sujet?
Un gros sujet, c'est fou parce que là, il y a tellement de un sujet tentaculaire, en fait. Ça me permet de toucher à tellement de choses. Ces gens-là de l'Université de Montréal, dont le blog s'appelle innovic.org.
H-I-N-N-O-V-I-C.org.
Ils ont comme thème « Transformons la manière de penser l'innovation en santé ».
Ah bon?
« Transformons la manière de penser l'innovation en santé ». Et moi, j'ai le goût de leur proposer un autre petit motto.
Allez-y.
Vous êtes des empêcheurs d'innover en rond.
Parce qu'on peut innover en... Je pensais que innover, c'était ne pas être en rond.
Non.
Ah bon?
On peut innover en rond. Et c'est une des raisons d'être de ce groupe-là, c'est que ça éclaire ces processus où on innove en rond. On n'innove pas vraiment, mais on fait beaucoup d'argent.
Ah, il y a ça encore.
Et le bien public, le bien collectif...
disparaît.
Ben ça, on l'a oublié. Mm-hmm. Bon, voilà. Et je pense que la table est mise là, pour parler de ça.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on regarde... Moi, j'ai vu ce site. D'abord, c'est d'accès gratuit. Il y a plein de capsules vidéo. Ouais. Il y a plein de trucs pour tout le monde, en fait. Ouais. Comme les antibiotiques, les bactéries, les façons de se soigner. Mais il y a des façons créatrices. Et il y a une réflexion derrière, en plus.
Il y a une réflexion, oui. Et il y a des idées là-dedans... Bien en parler, c'est tout de suite de plonger quelque part. Je veux vous parler de l'étrier tantôt.
De quoi?
L'étrier, vous savez, ce que l'on a sur des selles.
Des chevaux?
Sur des chevaux.
Quel rapport?
C'est une technologie.
Étrier est une technologie.
Une technologie, enfin, oui. Mais je ne veux pas tout de suite entrer là-dedans. Quoique, j'ai fait ce lien entre les technologies d'innovation et la santé. Et l'histoire des technologies, quelque part, aussi.
Et leur impact sur la société.
On revient à ça. Réglons tout de suite ce problème de l'étrier.
Le problème.
Écoute, pour bien comprendre ce qui se passe, on est au 8e siècle, à l'époque des Carolingiens.
Oui.
On est sur le continent européen. Et il y a une grosse... Il y a plein de batailles tout le temps. Hein.
Oui.
Les Byzantins, les Francs, les Germains, les... Ça se bat en fantassin, à pied. À un moment donné, ça monte à cheval. Et pour bien se battre à cheval, il faut être solidaire de sa monture.
Oui.
Hein? Solidaire de sa monture, c'est-à-dire on va devoir manier des armes quand on est assis sur le cheval. Et on y met une selle. Déjà, on améliore les choses, mais vous êtes lancé à haute vitesse, vous avez une lance dans vos mains, vous n'avez qu'une selle. La selle ne comprend pas d'étrier encore.
Et donc, on peut tomber au moindre coup de...
Exactement. Alors, il y a l'introduction de ces étriers qui sont des supports pour les pieds, qui permet au cavalier de se lever. Il se lève, il devient stable, il prend la force de sa monture. Et la force du cheval, finalement, est transférée dans le cavalier.
Oui.
C'est très guerrier, tout ça.
Et le cavalier va dominer les fantassins?
Ben, les gens, les peuples comme ces francs-là, font un bon usage de l'étrier, vont dominer. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans cette domination militaire, les historiens des technologies se sont rendus compte que pour que perce cette technologie-là, ce pouvoir militaire-là, on instituait une nouvelle société. On voit ça a posteriori. Une nouvelle société s'est installée parce que pour avoir ces armées-là à cheval, avec leurs étriers, il faut, ça coûte cher. Il faut leur donner des terres.
Oui.
Et là s'installe tranquillement ce système, les systèmes féodaux.
À cause de l'étrier.
L'étrier, l'avantage que la technologie amène.
Oui.
Et il y a toute une transformation sociale qui se passe. Et moi, quand je regarde ça, au 8e siècle, je peux prendre ça et regarder les technologies médicales d'aujourd'hui.
Et vous transposez la même dynamique?
Oui.
Donne-moi un exemple concret, par exemple.
Un exemple concret.
D'une avancée médicale contemporaine ou moderne.
Prenez le transfert d'embryons.
Oui.
Mon passé de fils d'agriculteur m'a mis en contact avec les transferts d'embryons parce qu'on a fait ça sur des fermes assez rapidement, hein, dans les années 80, 90, on transférait des embryons. C'est quoi les transferts d'embryons? C'est une capacité de pouvoir avoir des vaches porteuses d'embryons de qualité.
Oui.
Qui dit vache porteuse fait la transposition chez l'humain? On en est là maintenant. Mm-hmm. On a les mères porteuses.
En Inde, notamment, non? J'entends parler de choses comme ça.
Non, mais en Inde, on les a partout, les mères porteuses, à l'heure actuelle.
Oui.
Mais dans le système mondialisé qui est le nôtre, les pays riches ont des liens avec ces pays émergents qui sont l'Inde, le Brésil et tout ça, pays qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui ont aussi des accès assez forts à la technologie.
Mmh.
Et là, quand on décide de faire porter l'embryon par des femmes indiennes, puis on les rémunère, on en retire le privilège pour un couple de parents riches d'avoir des enfants qui sont portés par des mères un peu à l'extérieur de son pays. Qu'est-ce que ça... On dirait qu'il y a une forme de féodalité.
On recommence... Ah, ça, là, encore une même structure, si vous voulez, dominant-dominé
Oui, une forme de... J'explique ça de façon assez primaire parce que c'est pas des choses que je...
Non, mais vous faites des liens, c'est intéressant.
Mais je pense que quand on veut comprendre, on est tellement immergé dans notre réalité, dans le présent, on est tellement présentiste, que le seul moyen de se dégager un espace critique, c'est de reculer. Hein.
Est-ce que c'est ce qu'on voit dans ce blog dont nous parlons aujourd'hui, innovic.org ou pas?
Oui, parce que ces dimensions dont on vient de parler, ces gens-là sont des académiques, hein.
Oui.
Sont des sociologues, sont des politologues, sont des économistes, sont des spécialistes de technologie, de la santé. C'est des gens qui réfléchissent énormément aux tenants et aboutissants de l'apparition des technologies dans la société. Et ils voient bien, à partir d'un certain moment donné, que, au fond, si... Quand tu les lois du capitalisme s'emparent de ces technologies-là, ils les font tourner selon leur procédure. Selon leur procédure à eux, il y a les intérêts de la santé, mais il y a les intérêts de l'enrichissement aussi qui est à l'origine des pouvoirs capitalistes. Dans ce contexte-là, ces gens-là nous amènent à regarder, par exemple, les vices du système. Qu'est-ce qui fait qu'on paye les médicaments si cher?
Ben, c'est un truc qui revient souvent. Au Québec, au Canada, c'est peut-être l'endroit au monde, un des endroits où les médicaments sont les plus chers.
Il y a eu une règle qui a été instituée à Ottawa. On s'est dit que les Canadiens, nous allions fixer une ligne qu'on ne devrait pas dépasser pour fixer le prix des médicaments ici en sol canadien. Mmh. On s'est dit qu'on allait dresser une ligne médiane en se comparant à 7 pays.
Oui.
Et finalement, on ne dépasse pas la ligne médiane de ces 7 pays-là. Mmh. Et dans ces 7 pays, nous disent les gens qui parlent sur Innovic, c'est les pays où les prix des médicaments sont les plus chers.
C'est incroyable, ça.
Alors, nous, on se jauge là-dessus. Et quand on se jauge là-dessus, bien là, il y a tout un engrenage qui s'articule, à savoir, bon, ben si les prix sont très hauts, on s'est dit qu'on va attirer des investisseurs, les compagnies pharmaceutiques, tout ça, les compagnies pharmaceutiques vont développer jusqu'à un certain point la recherche pour mettre au point des médicaments parce qu'ils savent ici qu'ils les brevettent puis ils les vendent très cher.
Oui.
Mais à la limite, à un moment donné... c'est plus tout à fait ça ce qui se passe. Là.
Si je comprends bien, Luc Dupont, les avancées technologiques devraient servir au bien commun, à l'amélioration de la condition des gens, mais elle est souvent détournée pour des intérêts égoïstes ou particuliers.
C'est ça, au fond, une technologie, c'est une forme de... Ce sont des processus ou des outils ou des instruments qui nous permettent d'avoir un rapport avec le réel pour en tirer un avantage.
La technologie est donc un moyen et non pas une fin en soi.
Est un moyen. C'est quand le médicament, oui, les médicaments sont des technologies.
C'est drôle, hein? Oui, l'étrier, les médicaments, selon ce que vous dites, évidemment, Luc Dupont, sont des technologies, c'est vrai.
Quand est arrivé ce qu'on appelle un médicament, c'est une pilule, mais la pilule anticonceptionnelle...
De Pincus?
Ouais,
oui, vient, dans les années 60, oui.
D'ailleurs, un des inventeurs avec Pincus de ça vient de mourir à 92 ans.
Ah oui.
Donc, quand on arrive avec ça, vous imaginez, l'étrier a amené la féodalité en Europe, la pilule anticonceptionnelle et la révolution féministe du 20e siècle. Vous en voulez des transformations sociales à partir
profonde,
d'une technologie.
Hein? Tout à
mais,
fait.
Mais sur Innovic, on est amené à regarder ces choses-là, à les penser. Mm-hmm. Mais là, je vous amène du côté d'innovant ou d'innovateur que nous présente Innovic, mais qui me fascine, moi, personnellement.
Il y en a un en particulier là-dedans, non, qui vous fascine, je pense, non?
Bon. Mais c'est peut-être pas celui que vous pensez.
Ah, un autre alors.
Imaginez, écoutez ça. Un enfant atteint de fibrose kystique.
Oui.
Incarne dans une espèce de jeu vidéo qu'on appelle le jeu sérieux. L'enfant atteint de fibrose kystique incarne un capitaine qui doit mener son vaisseau jusqu'aux endroits les plus retirés des bronches.
Oui. Hein?
Quand on est atteint de fibrose kystique, on est engorgé de mucus. Hein?
C'est juste.
Et on doit faire à tous les jours des exercices. Alors, des gens ont créé un jeu vidéo, une ludicité qui permet aux jeunes qui doivent quotidiennement se nettoyer les bronches de jouer.
Il y a un genre de distanciation entre le malade et sa maladie, en un sens.
Exact. Pour faire avancer le vaisseau, l'enfant expire à travers un appareil qui lui permet de décoller le mucus qui obstrue ses bronches.
C'est incroyable.
C'est tout beau, c'est tout gentil. Mais voyez-vous, quand on prend cette innovation-là, ce n'est une innovation médicale, c'est une technologie basée sur le monde virtuel, les jeux vidéo, tout ça. Vous rendez-vous compte qu'avec ça, on n'a pas perdu le bien public? On n'a pas perdu l'avantage du bien collectif.
Effectivement.
Et on a innové.
Est-ce qu'il y a également, Luc Dupont, on parle de ce blog, je redonne l'adresse, Innovic, HINNOVIC.org. C'est passionnant, vraiment. Vous m'avez vu sur une piste absolument fabuleuse, Luc Dupont. Il y a... Dans votre réflexion, je pense qu'il y a un éminent sociologue théologien qui a son mot à dire, je pense.
Lequel?
Fernand Dumont.
Ouais, ben, c'est fou parce que...
J'y pensais pas du tout.
C'est fou. Mais c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que Dumont nous a apporté? Il nous a dit, la culture, on peut l'appréhender, le lieu de l'homme... La culture comme distance et mémoire.
La culture comme distance et mémoire.
La culture comme distance et mémoire. Distance, les étriers.
Oui.
Mémoire, la pilule anticonceptionnelle.
Mm-hmm.
Tu sais, au fond, la technologie, elle est culture.
Hein? C'est un produit culturel.
C'est
une avancée technologique
est un produit
culturel.
Un roman,
oui.
C'est un produit culturel. Une technologie de la santé, c'est un produit culturel.
Oui.
C'est intéressant de...
Et donc, il se base sur une mémoire.
Ben, veux pas. Quand tu veux rester bien en phase avec, un certain nombre de valeurs saines dans le développement des sociétés, il faut toujours que tu regardes un peu comment les choses avancent, mm-hmm. puis tu regardes en cours de route qu'est-ce qui distorsionne, qu'est-ce qu'on peut recadrer. Mm-hmm. Et Innovic, c'est plus qu'une ribambelle de d'innovation en technologie de santé que l'on met sur un site. Mm-hmm. C'est une façon de médiatiser le réel, une forme de démocratisation, je dirais, que l'on retrouve de plus en plus à toutes sortes de niveaux de la société. Quand est arrivé le printemps érable, je ne pensais pas faire ce lien-là maintenant, mais quand est arrivé le printemps érable, qu'est-ce qu'on a aimé de nos jeunes leaders, hein, qui étaient éminemment critiquables, disons-le aussi.
Hein, tout à fait,
hein,
oui.
Pour être... Mais qu'est-ce qu'on a aimé, c'est qu'il y avait un langage dans leur bouche, il y avait une façon, une démocratisation, on ouvre la discussion. Mm-hmm. Dans le monde du travail aujourd'hui, dans le monde de l'innovation, dans le monde scolaire, dans le monde industriel, on veut ouvrir.
Vous le sentez?
Oui, je le sens. Je le sens en réaction à des vieux modes, des vieilles formes industrielles, mm-hmm. Où le bien public est complètement oublié et où on fait une espèce de course en avant, mm-hmm. D'investissement pour... tu sais, un système de santé qui, depuis les années 60, c'est tellement technologisé.
C'est juste.
Qu'est-ce qui s'est donc passé, tu sais?
Il y a un danger, d'ailleurs.
Pour qu'on passe du stéthoscope,
oui.
Hein, à tout ce qui a débordé le stéthoscope aujourd'hui, c'est que le monde médical, avec les technologies puis la puissance qui s'est installée dans les années 60, tous les organes ont bénéficié d'avancer le cœur, les reins, grâce à l'endoscopie, grâce à la vidéo, grâce à l'ordinateur, les scans.
Mais le danger, c'est qu'on soit englouti par ces innovations, non?
Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Mm-hmm. Je pense qu'il ne faut pas les arrêter, mais il faut toujours être en mesure, recadrons. T'sais, au fur et à mesure que l'on marche dans un sentier, on se dit, recadrons, d'où je pars, d'où je viens, où je vais, quel est mon horizon?
D'où la formule de Fernand Dumont, distance et mémoire.
Exactement.
Tout à fait. Hein. Il y a aussi, en quelques secondes, il y a un très beau vidéo sur Stephen Hawking.
Ah, oh, ça, c'est fascinant aussi.
Il y a un petit bidule qui lui permet de communiquer presque en temps réel.
Mais lui, depuis 20 ans, oui. il est complètement paralysé.
Oui.
Hein?
Seulement
sa joue bouge. Grâce à ses inflexions de joue, c'est relié à un système de communication qui lui permet de générer une voix synthétique.
Et on le voit, c'est une vidéo de 2 minutes.
Pendant 20 ans, Intel, une grosse compagnie, a permis à Hawkins d'être Hawkins, c'est-à-dire de continuer à se promener dans son laboratoire avec ses post-docs, puis à les orienter vers des visions nouvelles des choses. Bien, grâce à ces technologies d'innovation-là, Hawkins, mon Dieu!
Et on peut voir ça sur le site hinnovic.org, innovic.org. C'est passionnant. Si moi je le comprends, vous le comprendrez encore plus. Luc Dupont, merci infiniment.
Ben, ça fait plaisir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Daniel Fortin à la régie. Au menu demain, les racines de la joie et le Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse de l'Université Laval. Ici Jean-Philippe Trottier, merci de votre fidélité. Restez à l'antenne de Radio-VM.